C'était quoi, des îlotiers, c'est ça?
Des îlotiers, oui.
Des îlotiers, quand il y avait des îlotiers, bah, ils étaient vachement en contact avec nous, ils s'arrêtaient, ils tournaient en scooter, ils s'arrêtaient, ils discutaient, ils prenaient le temps de parler, d'échanger avec nous. Et c'était une marque de respect, on pouvait que les respecter, je veux dire. Parce que quand tu vois que la personne en face de toi te donne du respect, forcément, ben nous, on lui en donnait le double. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas.
Comment vit-on dans les quartiers prioritaires de Montauban ? Mémoire, tranches de vie, anecdotes, souvenirs, dans des portraits intimistes, leurs habitants se dévoilent à travers la vie dans leur quartier. Honoré, c'est son nom d'emprunt à 44 ans. D'origine marocaine, il est né et a grandi dans le quartier des Chaumes. Grâce aux différents métiers qu'il a exercés, il a pu voyager et vivre dans plusieurs autres villes de France, mais il n'y a qu'à Montauban qu'il se sent épanoui. Je le retrouve un lundi après-midi au parc devant la médiathèque de Montauban, et on s'installe sur un banc. Il y vient régulièrement se retrouver avec les jeunes et les moins jeunes du quartier. Tous ensemble, ils tuent le temps, ils discutent de tout et de rien, certains fument et boivent. Très empathique avec les jeunes qu'il côtoie, Honoré est mélancolique sur son enfance dans le quartier qu'il estime pas facile. Mais où à l'époque, la communication était encore possible. Selon lui, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Cette interview est à replacer dans son contexte. Elle se déroule le 10 juin, le lendemain des élections européennes qui ont vu le Rassemblement national atteindre 32% et de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron.
Ça m'a ouvert à d'autres personnes quand je joue au foot. Donc on avait quoi? On avait un créneau, mais pareil, associatif, c'était associatif. On avait un créneau de futsal en fait. C'était le lundi et le jeudi soir,
okay.
De 20h à minuit. Il y avait les gens de Castel, de Montauban, de Villebourbon, de tous les quartiers de Montauban. Et on se retrouvait là-bas et on jouait au foot. Et il y avait du niveau quand même. Il y avait du niveau, c'était pas mal, c'était... Et tellement que du bouche à oreille, ça parlait, les gens dans les clubs, ils entendaient parler qu'il y avait des bons joueurs qui jouaient au foot en salle dans les quartiers. Et il y avait un club, donc Loubéjac, c'était Loubéjac Ardus. Donc l'entraîneur de Loubéjac Ardus qui est venu, il connaissait un jeune, il a dit il me faut des joueurs. Il a dit bah, écoute, je conseillerais de passer au futsal et de voir. Tous ces jeunes-là, il n'y en a aucun qui joue en club, il n'y en a aucun. C'est que des jeunes du quartier, ils jouent, mais ils sont pas mal. Il est venu, là, on a pris 5 ou 6.
Ouais, il a recruté l'équipe de
futsal. Il a recruté carrément une équipe, quoi. 5 ou 6. Okay. On est parti jouer à Loubéjac Ardus. Bon, sur les 5 ou 6, allez, il y en a 2, ils ont dû faire un an, ils ont dû arrêter. On est resté, je crois, on était 4. 4, on est resté pendant 3 ans là-bas. C'était juste magnifique, c'était juste joli, quoi. On est monté de niveau, on faisait partie du village, nous aussi, on faisait partie du décor, quoi. C'était comme une famille, donc c'est comme ça, les villages, hein. T'as le maire, la femme du maire, le fils du maire, l'entraîneur, la fille de l'entraîneur, t'as tout le monde, c'est une grande famille, en fait. Et voilà, la troisième mi-temps, c'était vraiment agréable, et ça m'a ouvert à d'autres personnes, en fait. Ça nous a permis de connaître d'autres personnes, d'autres gens. Moi, j'ai connu un CRS, un boulanger, l'autre il avait un café. Donc il y avait vachement de... C'était diversifié. Nous, on venait de la cité, on n'avait rien. c'était bien, c'était intéressant. Et de casser un peu comme ça la semaine, de voir d'autres personnes comme ça, ça fait du bien, ça fait du bien. Et c'est valorisant, c'est enrichissant, c'est... Et au jour d'aujourd'hui, maintenant, ça fait 20 ans, ben, quand on se recroise avec ces personnes, on se salue, on se prend 5 minutes, on se boit un verre. C'est vraiment, on sent qu'il y a de l'amitié, quoi. C'est fort. Et ça, j'aimerais que les jeunes d'ici du quartier vivent ce que j'ai vécu moi, en fait. Rencontrer d'autres gens, d'autres personnes, s'ouvrir. Et là, sans te mentir, ce que je vois de... C'est qu'ils sont vachement communautaires, en fait. Ils sont entre eux. Et c'est pas bon. Je pense que les jeunes, la plupart, ils sont perdus. C'est juste qu'ils sont perdus, c'est tout. Ils sont pas mauvais, ils sont pas, c'est juste qu'ils sont perdus, ils ont besoin d'être orientés.
Quand tu dis les jeunes, c'est les jeunes d'aujourd'hui ou...
C'est les jeunes d'aujourd'hui, oui. Parce qu'après, les jeunes de hier, ça y est, ils sont grands maintenant, ils ont fait leur vie. Soit ils ont fait leur vie, ils sont rangés, ils travaillent, ou soit ils sont en prison, ou soit ils filment mal, ou soit ils sont derrière, là, en train de taper l'apéro de midi à 20h. Ouais, mais c'est malheureux, mais c'est ça, parce qu'ils se, ils sont tellement isolés dans leur monde et qu'ils se retrouvent derrière l'alcool pour oublier et noyer leurs soucis. Mais les soucis, ils sont toujours là, quoi, je veux dire.
Attends, mais ou quoi ? Ouais, j'étais où, Narvalo ? Ça fait un an que je t'ai pas vu, Narvalo. T'étais où ? T'as déménagé ou quoi ? T'as déménagé ?
De quoi ?
T'es plus à Montauban.
Ah, on vit, non, je suis plus en vie.
Arrête. Arrête. Tu galères pas ?
Oh, la merde, mais pas l'ombre, t'as fait la vie, pas la vie du Kachi.
La vie, comment ça se passe ici ? Quoi, qu'est-ce que tu fais ?
C'est
la merde. Ouais, c'est la merde, ouais, mais viens, viens. Arrête.
C'est une période que tu as eue, toi, quand tu étais plus jeune ?
Quand j'étais plus jeune, j'ai eu cette période, bien sûr. Mais je me suis repris en main parce que je savais que je partais droit au mur, en fait. Il n'y avait pas d'avenir. Parce que je regardais les anciens, en fait. Je regardais les anciens qui n'avaient pas réussi, tout ça. Et je les vois, là, sur un banc, en train de boire de la bière et tout ça. Je me dis, non, je ne vais pas finir comme eux.
Et c'était quoi, le déclic ?
Eh bien, le déclic, ça a été que, déjà, je me marie. Donc, à partir du moment où je suis marié, je pense qu'on voit la vie différemment. Et quand on a des enfants, encore plus. C'est, comment dire, c'est, voilà, en fait, c'est que du bonheur. Dans la vie, il faut avancer, il faut avoir un avenir, il faut penser à ses enfants, pour la scolarité, pour les accompagner, pour qu'ils n'aient pas la même jeunesse que j'ai eu moi, quoi, je veux dire, à traîner en bas.
Qu'est-ce que tu as fait, du coup, pour te poser ? Tu as dû trouver un travail ?
Ouais, je travaillais en intérim, donc je faisais un peu de tout. J'étais un peu bricoleur, je travaillais un peu de tout, dans le TP, dans le bâtiment, dans l'espace vert, là où il y avait du travail, en fait. Bah, forcément, je n'étais pas trop diplômé, donc on ne peut pas prétendre avoir un métier où on n'a pas de qualification derrière. Donc du coup, ensuite, j'en avais marre de faire des intérimaires toutes les semaines. J'ai décidé de passer une formation, câblage aéronautique, que j'ai validé au bout de 3 mois, et ensuite j'ai travaillé dans l'aéronautique à Toulouse. 2 ans dans l'aéronautique, et j'ai fait 1 an dans le câblage ferroviaire à Montauban. Ça m'a plu aussi. J'ai fait câblage, j'ai fait 2 ans et demi. Et ensuite je suis parti dans la logistique, un peu de logistique, et j'ai passé mes permis poids lourd, super lourd.
Actuellement tu es toujours chauffeur ?
Non, là, non. Là, j'ai arrêté, là, ça fait. Il m'est arrivé des pépins, voilà.
Quel pépin ?
Quand j'étais jeune, moi, bon, ben, ça m'arrivait de fumer la cigarette qui fait rire. Et ça, c'est vrai que j'ai eu du mal à m'en débarrasser un peu, parce que ça y est, c'est dans les gènes, hein, je pense. Hein. Quand tu le fumes pendant longtemps, c'est pas évident de l'arrêter d'un coup. Et donc, je travaillais, et le soir, quand je rentrais pour me distraire, je me fumais un petit qui me mettait bien. Le lendemain, je repartais travailler, et un jour, je me suis fait contrôler devant le dépôt, et positif, j'étais. Donc ça m'a valu de perdre mon permis, de perdre mon emploi, de perdre ma famille, la totale. Donc, comme on dit, la descente aux enfers. Mais au jour d'aujourd'hui, là que je vous parle, j'ai tout récupéré, j'ai récupéré mes permis, bon, sauf ma famille, bien sûr. Mais bon, ça a été dur, dans un moment très dur. Et maintenant, on relève la tête et on va continuer de se battre.
Je veux dire, la cigarette qui fait rire, comme tu dis.
Ouais.
Tu continues à en fumer ou...
Ouais, non, j'ai trouvé une alternative, en fait. Je fume du CBD. Parce que j'en ai besoin, en fait, je pense. Étant donné que ça fait longtemps que je fume, donc je trouve que le CBD, ça se rapproche. Là, faut... CBD, du tabac. Du tabac. Ben.
Oui.
Cigarette du matin, c'est un petit crottin, on appelle ça.
Quelle heure là ? 15h ?
Ouais,
16h.
Quoi, il est tombé par terre ?
Ouais, il a fait tomber le jeune. Il l'a ramassé. Non, mais il l'a ramassé. Bien, ouais. Non ? T'as une masse ?
Ouais.
Quand toi t'étais plus jeune, il y avait quand même des éducateurs, tout ça. Comment ça se passait à l'époque, quoi ?
Ah, à l'époque, si, il y avait des éducateurs, ils appelaient ça les gilets verts, je crois. Et ils tournaient dans Montauban, c'était des médiateurs en fait. Et ils étaient au contact de la population, des gens du quartier, ils étaient dans tous les quartiers, centre-ville, au quartier ici, au quartier Est, à Issanchou, dans tous les quartiers. Et ils faisaient de la médiation, et quand ça n'allait pas avec quelques jeunes, ben, ils allaient le voir pour voir le problème et essayer d'arranger le problème. Et je pense que c'était bien parce qu'il y avait un dialogue quand même, il y avait un échange. Alors que maintenant, si la personne n'est pas bien ou quoi, à qui elle va parler? Elle va pas parler aux jeunes. Ils vont lui dire, mais j'ai rien à foutre de ton histoire, moi, je suis pas assistante sociale. Donc du coup, les mecs sont livrés à eux-mêmes un peu quelque part. Alors qu'il y en a beaucoup qui aimeraient bien parler, se vider, quoi, dire ce qui va pas. Mais ils n'ont pas à qui parler. À l'époque, il y avait les médiateurs. Je ne dis pas que ça a fait tout, mais ça, c'était pas mal. Il y avait de la médiation, il y avait du contact. Ils savaient un peu les problèmes qu'il y avait plus ou moins dans le quartier. Et le but, c'était d'arranger les choses, quoi. Donc, et ça a arrangé. Moi, à mon époque, je voyais que ça marchait. C'était de tout. Hein. C'était des conflits avec le voisinage, c'était des problèmes entre collègues. C'était la salle des assauts. Elle est ouverte, mais qu'à une certaine heure, nous on aimerait bien la voir un peu plus tard. C'est là qu'ils interviennent, qu'ils nous disent non, c'est un peu plus tard, il n'y a plus personne pour vous gérer, il n'y a plus personne pour TAC. Donc ça, on ne comprenait pas parce qu'on se gérait nous-mêmes. Donc en fait, non, dans un lieu comme ça, c'était des murs, comme à la Comète par exemple, ça appartient à la mairie, à la municipalité. Donc forcément, il fallait mettre un éducateur ou quoi, on ne pouvait pas s'auto-gérer nous-mêmes. Mm-hmm. Il fallait faire soit une association ou soit quelque chose pour qu'on puisse permettre de
l'utiliser.
D'utiliser ces lieux. Donc on a fait. Mais bon, voilà, si on ne sait pas, on ne peut pas faire.
La police de proximité à l'époque,
ouais.
Aujourd'hui qui n'existe plus, qu'est-ce que tu en penses?
Ah, j'en pense que c'est dommage parce que. C'était quoi, des îlotiers, c'est ça?
Des îlotiers, oui.
Des îlotiers, quand il y avait des îlotiers. Bah, ils étaient vachement en contact avec nous, ils s'arrêtaient, ils tournaient en scooter, ils s'arrêtaient, ils discutaient, ils prenaient le temps de parler, d'échanger avec nous. Et c'était une marque de respect, on pouvait que les respecter, je veux dire. Parce que quand tu vois que la personne en face de toi te donne du respect, forcément, ben nous, on lui en donnait le double. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc ça nous donnait une autre image, en fait, de la police. Ça nous donnait une autre image, C'était vraiment, on sentait la police là pour nous protéger. C'est vraiment, on se sentait. Et non pas comme. Maintenant, la police elle vient, quand elle s'arrête, on sait que c'est pour nous contrôler. Et si on a le malheur d'être pas d'accord avec eux, mais le temps peut vite monter, ça peut vite partir en outrage. Et bon, après, on connaît l'histoire, hein, on connaît la suite. Hein. C'est pas l'agent qui va avoir tort. Hein.
Hein, hein, on est des toupies, hein.
Allez, vas-y, dis, exprime-toi, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'il faudrait pour nous?
Un bol d'air, on en a marre.
Voilà.
Un bol d'air.
C'est tout?
Et qu'ils arrêtent de nous regarder comme un zoo, on était au zoo.
Comme si on était au zoo. On est pas des zoophiles.
Ça n'a pas changé depuis la haine. Je sais pas si tu te rappelles du film.
Non, c'est lequel?
Avec Cassel et Hubert Koundé. Ouais, voilà.
Ah ouais.
On n'est pas à Thoiry.
C'est quoi ça? Est-ce que vous avez participé aux émeutes cette nuit? Est-ce que vous avez cassé quelque chose?
Eh madame, on ressemble à des voyous pour vous ou quoi?
Ah non, j'ai jamais dit...
Ah ouais, alors on ressemble à quoi pour vous madame?
Ah mais rien.
Pourquoi vous descendez pas de la voiture là? On n'est pas à Thoiry ici.
Écoutez, on a du boulot, on est en
Ah ouais, ouais, vous avez beaucoup de boulot comme quoi par exemple quoi? Trouver un truc bien baveux, histoire de foutre la merde, hein, histoire de faire un scoop.
Vas-y, arrête de filmer.
Mais pour qu'il t'ait le poil, venir faire péter dans mon quartier. Vas-y, bouge là. Qu'est-ce que tu filmes toi, fils de pute? Qu'est-ce que tu filmes, fils de pute? Tu viens nous embrouiller, tu sais de pute. Pas à Thoiry là-haut.
Putain, qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui ces bâtards?
Je te jure, qu'est-ce que c'est cette pétasse qui a sur les... C'est quoi, Thoiry?
C'est un zoo, là, qu'on visite en voiture.
Thoiry, mon cul, ouais.
Qu'est-ce que t'en penses, Dupin? Que... Non, pas Le Pen. Comment il s'appelle?
Barcola.
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 Ah, mais t'as vu, déjà, mais ouais, mais déjà, par rapport aux résultats par rapport aux résultats européens. Par rapport aux résultats européens, ça en dit long, déjà, sur les gens. Bonjour, bonjour, mais derrière, s'il peut te planter le dos, tu vois, il te plante. Non, mais ça, on voit bien que les gens maintenant, faut faire attention à qui on serre la main maintenant.
Moi, j'ai pas voté, je savais même pas qu'il fallait voter.
Ouais, ils savaient pas, tu vois. Il faut les aiguiller, ces jeunes. Ils peuvent voter, mais ils savent pas.
Tout le monde hier savait pas qu'il fallait. Qu'on pouvait se présenter avec une carte d'identité ou un passeport. Parce que tout le monde croyait que c'était avec la carte
électeur. Non, tu peux.
Et moi, à 20h, je me suis aperçu, alors que les bureaux de vote étaient fermés à 18h.
Ouais,
voilà.
Ah ouais, il faut plus la carte électorale.
Jamais, tu peux, avec un PSNC, tu vois.
Mais je vais aller voter maintenant.
Ah, il vote le 30 et le 7.
Moi, je vais voter. Oui. Je vais le voter à lui. Qui est Barker?
Bardella.
Bardella. Quel bordel. Il rigole quand il dit ça. Tu vois que les jeunes, ouais, ils en ont plus ou moins rien à foutre. Plus ou moins.
De la politique.
De la politique, quoi. Ils sont... Alors que c'est dommage. Ils peuvent. C'est des voix qui sont pas utilisées. C'est dommage. Ça pourrait changer la donne. Mais ils ne se sentent pas représentés. Donc, ils se disent que je vote pas, je serai toujours dans mon trou. Ils n'y croient plus.
Mais il n'y a personne qui a fait de la politique dans le quartier qui est...
Si, moi j'ai fait de la politique. Là, c'est tombé sur la bonne personne en fait.
Ah oui.
J'ai fait de la politique.
C'est vrai?
Parti communiste.
À quel moment?
C'était dans les années 2005, 2006, je crois, comme ça, 2007.
Ouais, donc juste après, juste après Ziad Debouna, quoi.
Exactement, ouais, ouais, c'est ça.
Donc, tu faisais quoi? T'étais quoi?
J'étais 12e dans la liste Parti communiste. Et on a passé le premier tour. On s'est rallié avec la gauche pour contrer la droite. Donc du coup, j'étais 12e avec le Parti communiste. Et quand on s'est rallié avec la gauche, j'ai dégringolé à la 16e place. Et il s'avère qu'il y a eu un petit souci cette année-là. La gauche est passée et quelques minutes après, il y a eu rebondissement. Non, c'est la droite. Il y a eu un décompte qui n'a pas été fait. Du coup, c'est la droite.
Quelle expérience t'en tire?
Franchement, c'est bien parce que tu rencontres du beau monde. Comment tu veux, on voit la politique différemment, en fait. Déjà, on peut donner sa propre idée et sa vision que d'autres peut-être ne l'auront pas. Et ça peut faire changer un peu les choses. Peut-être pas énormément, mais ça va changer quand même les choses. Et il y a des personnes dans le quartier qui se sentiront écoutées, entendues. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux quand on fait de la politique que de représenter les personnes qui ont voté pour nous.
J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance.
Bah pour moi, il a voulu faire un pile ou face. Hein, mais... Je fasse attention, parce que pour lui, peut-être qu'il doit être persuadé qu'il va... que son parti va revenir, mais faire attention, parce que ça se peut que ce soit l'inverse.
Et si c'était l'inverse?
Eh ben, si c'est l'inverse, eh ben... C'est catastrophique. C'est catastrophique.
C'est catastrophique pour qui?
Plus pour nous déjà, je pense. Quand je dis nous, c'est les gens qui vivent dans les quartiers. Les gens qui galèrent à trouver du travail, les gens qui galèrent à subvenir à leurs besoins parce qu'il n'y a pas de boulot. Donc forcément, pas de boulot, pas d'argent, pas de revenus. Donc c'est la misère. Et je pense que si c'est les RN qui passent, eh ben, ça va pas nous aider, je veux dire.
Alors comment on fait pour se financer par Pôle emploi?
Ah, mais tu vois, tu leur dis qu'est-ce que tu veux faire ton projet. Et après, ils vont te faire faire... dans ce que tu veux faire, une semaine d'essai pour voir quand même qu'ils vont pas te financer pour rien, que vraiment ce que tu veux faire, ça te plaise. Ils vont pas te lâcher comme ça des subventions sans que ça te plaise au bout, tu vois.
Non, ils me financent une formation à Paris.
Bien sûr, ça dépend. C'est quoi? T'as le train? T'as la promotion de train là? T'as la voie ferrée? Eh bien, tu leur dis ça, bien sûr que t'as finance. Tu vois, par exemple, comme ces jeunes-là, ils sont là, mais ils demandent, ils savent pas, ils veulent. Mais moi, j'ai pas toutes les... Mais je peux déjà aiguiller.
Ouais.
Mais ça aurait été bien qu'il y ait quelqu'un qui... Ça serait bien que... Tu vois, là, t'es témoin déjà d'une personne qui vient, qui a dit comment... Voilà, tu veux. C'est vrai, c'est pas une caméra, oh. Tu vois, ils veulent savoir, en fait. Comment je fais pour faire financer une formation que j'aimerais faire à Paris? Est-ce que Pôle emploi me le fait? Ils me demandent la question à moi. Je ne suis pas conseiller, je sais pas. Mais je peux déjà l'aiguiller, je peux déjà lui dire oui. On va voir ton conseiller. Et tu poses tout sur la table. Et tu dis que tu veux faire une formation dans le ferroviaire et tout ça, et qu'il faut une formation. Et c'est lui qui va trouver la prochaine formation qu'il y aura. Et... Tout simplement. Ah, ils veulent. Mais c'est que, voilà, ils sont perdus, ils sont là. Ça veut dire que là, tu vois, il avait 5-10 minutes de... Il avait envie. Et là, il suffit que, tu vois, hop, une petite cigarette, hop, il repart à l'oubliette. Ça repart à l'oubliette. J'aime bien tout ce qui est relationnel avec les personnes. Et... Je trouve que c'est plus valorisant, en fait.
Enfin, il faut de tout, hein. Mais j'aime bien le contact humain, moi, en fait. Quand je vois une personne qui est pas bien, ou qui s'en sort pas, ou que, tac, si je peux lui donner une solution et que demain elle s'en sort, ben, je serai l'homme le plus heureux au monde. Je me dis que, voilà, au moins, j'en aurais sorti un du pétrin.
Et du coup, c'est quelque chose que tu aimerais faire aujourd'hui, quoi.
Et c'est quelque chose...
Conseiller les jeunes...
Voilà, c'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui. Donc, je me suis renseigné en tant qu'éducateur SPE. Donc là, je suis en train de me renseigner sur la formation. Et voilà, je vais faire mon petit bout de chemin, tranquillement.
Et tu voudrais monter, genre, une association, quelque chose, hein?
Ça serait mon but, en fait, de monter une association ici, dans mon quartier, là où je suis né. Ben, pour les jeunes qui sont en difficulté, déjà. Donc, ouais, commencer déjà par aider, et parler, orienter, conseiller les jeunes de mon quartier, ça serait plus que gratifiant.
Mais ce que tu me dis, ça me rappelle ce que tu me disais au début concernant les gilets verts quand tu étais jeune, quoi.
Ben c'est ça. En fait, on avait toujours quelqu'un à qui parler. On comprenait pas quelque chose ou il y avait un problème, ben, ils étaient là, ils nous donnaient des solutions. Quelle porte frapper pour avoir des renseignements ou de l'aide. Et ça avançait. Et quand on voit que ça marche, et ben on se dit, ben, en fait, non, c'est pas tout négatif. Quand la personne, elle est là et elle voit tout gris, elle voit jamais de solution, elle se dit, non, de toute façon, c'est cramé pour cramer, j'y arriverai pas et tout ça, ben, faut leur dire qu'en fait, non, quoi, que... On peut toujours.
Honoré ne désespère pas. Son idée d'association pour aider les personnes dans leur démarche administrative, pour trouver un emploi, un logement, pour les aiguiller, comme il dit, lui tient vraiment à cœur. Inversement, il aimerait aussi organiser des événements festifs à l'intérieur du quartier des Chaumes à Montauban pour attirer du monde de l'extérieur.